Bienvenue sur Sors de ta grotte, le podcast qui te booste pour passer à l'action. Action de quoi ? Tu veux lancer ton entreprise, un projet artistique ou un projet whatever ? À la fin de la journée, c'est les mêmes mécanismes et c'est de ça qu'on va parler dans ce podcast. Et avec moi aujourd'hui, il y a la super Dream Team, il y a Élise et Fred.
Hello !
Et voilà. Premier et voilà. Épisode là.
C'est ça.
Ça vous fait quoi les filles ?
C'est stressant, hein.
Oh, ça va.
Ça va bien se passer.
En fait, il faut savoir que ce projet, hein, on va pas raconter tout aujourd'hui, mais Sors de ta grotte, c'est une idée qui m'est venue pendant le confinement. Vous rappelez, peut-être dans 3 ans, vous écouterez ça, vous direz, ah, la pandémie du Covid.
Oh, c'est ouais. Ça. Le fameux confinement de 2020. J'en ai entendu parler.
Eh, non seulement les gens ont fait sûrement plein de bébés, mais je suis convaincue qu'il y a plein de gens qui ont eu envie de lancer des projets. Et voilà, moi, ça faisait longtemps que je voulais sortir de ma grotte dans le sens me montrer plus pour pouvoir promouvoir mon travail, puis aussi transmettre ce que je sais. Et quoi de mieux que traiter le mal par le mal en lançant un podcast. Et voilà, je me suis retournée de Fred et Élise pour ça. Et d'ailleurs, je vous propose de vous présenter Élise.
Ça marche. Alors déjà, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui pour cet épisode. Donc moi, je suis Élise, je suis consultante en qualité de vie au travail, coach en transition de carrière et orientation professionnelle, et je suis également photographe.
Yeah, excellent. Et toi, Fred ?
Moi, j'ai vu de la lumière, je suis venu. Donc, je m'appelle Fred, j'ai une casquette de développeur, de consultant autour de la donnée, mais je suis aussi artiste et je commence à faire un peu de photos aussi. Ça commence à m'amuser aussi. Donc voilà.
Nice. Yeah, cool. Et moi, donc, je m'appelle Aurélie, je suis coach en stratégie de marque et mentor pour freelance et je suis passionnée de créativité.
Yes.
Yes.
Yeah. Alors aujourd'hui, notre facilitateur, ça va être Fred, qui va un peu répartir la parole. Et puis Élise va s'occuper de nous botter les fesses si jamais on traîne trop sur un sujet. Donc c'est parti, je te donne la main, Fred, vas-y.
Très bien. Donc en tant que facilitateur, j'ai décidé de me faciliter la tâche en prenant toute la parole pendant tout le podcast. Donc aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 1 et on s'est dit que ce serait intéressant de faire un épisode un peu marrant. Et qui puisse un peu aussi permettre aux auditeurs de mieux nous connaître. Et quoi de mieux pour un podcast qui parle un peu de projets lancés que de fournir les 5 éléments essentiels qu'on a besoin pour rater un projet.
C'est un bon sujet qui motive.
C'est un bon sujet qui motive, qui met dès le début l'ambiance. Voilà. Et je me suis dit, voilà. C'est le sujet d'aujourd'hui. Je sens qu'on va rigoler parce qu'automatiquement, ça va nous faire revenir à des souvenirs passés, parfois pas si lointains que ça. Donc, le premier point, vous êtes prêtes, les filles ?
Ouais.
Ouais.
Le premier point, c'est sprinter pendant un marathon. Alors, ce point-là, c'est moi qui l'ai mis. Donc, je vais commencer un peu à expliquer un peu le principe. Moi, quand j'ai commencé à lancer des projets, le gros problème que j'ai, c'est que j'ai très peu de patience et que j'ai tendance à vouloir aller vite. Et j'ai rapidement réalisé qu'un projet, quel que soit artistique ou entrepreneurial, c'est surtout un marathon. Et par expérience, j'ai pu tester que faire un sprint pendant un marathon, ce n'était pas la meilleure stratégie pour arriver à la fin, à la ligne d'arrivée. Et voilà, si vous voulez vraiment rater un projet, dès le début, essayez d'aller trop vite, en fait.
Surtout que si tu sprints pendant un marathon, rapidement, tu t'essouffles. Hein.
C'est pire que s'essouffler, c'est que tu tombes et en plus tu vois les gens qui continuent à courir et tu te rends compte, quoi, il faut courir une heure encore. C'est juste démoralisant en fait, c'est juste démoralisant.
Mais en fait, ce qui m'impressionne avec Fred, c'est que c'est le gars, il a 1000 projets et il réalise 1000 projets. C'est que d'un côté, il parle de ça, mais c'est une des rares personnes que je vois être capable d'avancer vraiment, avoir des résultats. Parce que moi, c'est tout l'inverse. Hein. Moi, je vous parlerai peut-être tout à l'heure de mon projet YouTube avorté il y a quelques années. Moi, je suis du genre à perdre 20 000 ans à réfléchir à comment je vais faire le design graphique de la chaîne et tout, alors que j'ai 0 épisode, j'ai rien. Et résultat, j'avais même un jingle, un ami m'avait composé une musique. Et voilà, j'ai jamais lancé la chaîne parce que je me suis trop pris la tête. Donc, me prendre la tête sur des trucs inutiles au début.
On va en parler au deuxième point un peu de cette notion de se lancer un peu. Je vais pas en parler trop, c'est le deuxième point.
Mais, vas-y. J'avoue que personnellement, je suis un peu comme toi, Fred. Je suis quelqu'un qui n'est pas du tout patient. Ça s'est vu d'ailleurs sur mes précédents projets où j'ai voulu arriver à la vente avant d'avoir mis en place le tunnel, par exemple. donc je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Et il y a aussi une notion qui est très importante dans un projet, quel qu'il soit entrepreneurial, artistique, ou etc., c'est de gérer son énergie tout du long de la mise en place du projet. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie quand on est dans la tête dans le guidon. On oublie très rapidement que la pièce maîtresse du projet, c'est nous-mêmes. Et, que si on l'épuise à vouloir sprinter pendant un marathon, je reprends ton expression, très rapidement, on va être pas bien. Et donc, on va pas pouvoir continuer le projet. Donc, ça sert à rien et je l'applique moi-même justement aujourd'hui dans les projets que je monte, c'est d'y aller doucement, tranquille.
Oui, enfin, moi j'essaie de trouver, alors il me fait rigoler en disant que je suis le gars 1000 projets qui a réussi 1000 projets, sauf que si on doit garder le chiffre 1000, ça veut dire que j'en ai testé 10 000, hein. C'est juste que tous les autres pour arriver à cette conclusion là. Mais c'est vrai que moi je me suis rendu compte une fois que tu as pris conscience que ok, le projet que tu vas mener là, ça va pas se faire en un mois, ça va peut-être se faire en n'importe quoi, en 10 ans. Avoir conscience de ça fait que dans ta stratégie de gestion de l'énergie, tu vas le penser différemment. Et moi, il m'a fallu pas mal de temps pour pouvoir vraiment prendre conscience de ça. Alors, le comprendre, c'est un fait, le réaliser, c'est un autre. Le mettre en pratique, je t'en parle même pas. Donc, c'est vraiment pas évident. Et pourtant, je pense que c'est une des clés. C'est une des clés pour pouvoir au moins prendre plaisir à son projet, c'est surtout ça. Puisque beaucoup de projets, je pense que même les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, il y en a beaucoup qui commencent des projets ou qui ont des idées qui sont seuls pour le moment. Particulièrement quand tu es seul, tu es le seul garant de pouvoir gérer ton énergie et de pouvoir faire avancer ton projet. Donc, tu dois être déjà le seul garant à gérer correctement ton temps et ton énergie et pour pouvoir tenir sur du long terme, quoi. Rien ne sert de courir, il faut partir. Je parle comme un vieux, tu vois. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Mais il avait raison, le mec. Il avait raison. Le chemin, il est long. Et un truc que j'aime dire, c'est qu'il n'y a pas de date de péremption sur nos projets. Donc, c'est pas... Parfois, on se met beaucoup de pression pour rien.
Mais tu ne penses pas, Fred, que justement, le fait qu'il n'y ait pas de date de péremption, c'est quelque chose qui peut faire peur aujourd'hui aux gens?
Ah ben, c'est une très belle transition vers le point numéro 2, j'ai envie de dire. Sauf si Aurélie avait un truc à rajouter.
Non, on va suivre le cours naturel de nos conversations. Parce qu'en fait, à la base, au bout d'un moment, l'idée du podcast est venue. C'est qu'à chaque fois qu'on faisait des réunions ensemble, ça ressemblait à un podcast.
C'est vrai. Non, mais c'est exactement ça. C'est amusant quand même. Et le point 2, c'est justement foncer sans méthode. Et pour pouvoir rebondir sur ce qu'Élise disait, si... Ça fait peur, principalement parce qu'à l'origine, on se rend compte que c'est long et qu'on n'a aucune méthode. Et oui, à ces moments-là, on a envie de courir un peu. Si je pouvais mettre des gifs sur le podcast, je trouverais quelqu'un qui est en train de courir avec le feu dans la maison, tu vois. on fait. Frère, fais un truc, je ne sais pas, appelle les pompiers, mais arrête de paniquer. Et je ne sais pas qui l'a mis celui-là, foncer sans méthode.
C'est moi.
Ah ben, tiens.
Parce que la charrue avant les bœufs, tu vois.
C'est ça. Parce que je suis une habituée de ça. Donc, je sais plus ce qu'il disait, lâcher les chiens. Alors, aujourd'hui, je lâche les chiens après avoir eu la méthode. Donc je fais les choses en 3 jours maintenant, c'est très bien. Mais c'est vrai que avant je faisais plein de choses en même temps. Et je mettais les roues avant la charrue, par exemple. Il y avait si tu prends la voiture, en fait, il y avait d'abord le volant avant d'avoir la structure de la voiture. Si on peut prendre une image. Et je fonçais, je regardais pas forcément ce que j'avais fait et ce qui fonctionnait pas. Et arrivé à la fin où je devais vendre et que je ne vendais pas, je me posais la question. Mais en fait, pourquoi je vends pas? Au lieu de regarder tout ce que j'avais fait déjà de base, à me dire, bah, là il y a un problème, là il y a un problème, là il y a un problème, je m'arrêtais pas.
Ouais, mais c'est ça, là, je me reconnais un peu aussi... là-dedans, et je pense que, alors moi j'avais plus tendance à pas passer à l'action, parce qu'en fait il y avait tellement d'incertitudes parfois, en fait même j'avais même pas de clarté sur ce qui me bloquait, et en fait souvent c'est des questions qui n'avaient pas de réponse, de l'incertitude, et finalement en étant au contact de Fred qui à chaque fois dit mais non mais c'est hyper simple, il a toujours en fait une petite question qui permet de juste clarifier pourquoi on bloque ou pourquoi les choses marchent pas, et vraiment c'est avec toi que j'ai compris la notion de vraiment prendre le temps d'analyser les choses, d'émettre des hypothèses, de vite tester, d'itérer, quoi, la notion d'itération. Ouais. Qui est d'ailleurs plus facile pour moi peut-être à inculquer chez d'autres, mais que je n'étais pas capable à faire à moi-même.
Ah ouais, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés, ça c'est connu. Mais c'est vrai que moi, ça c'est des formations professionnelles de développeurs, tu vois, tout ce qui est itération, un peu méthode agile, puisqu'on parle de méthode. C'est clair, moi j'utilise ça dans tout, quoi, mais limite la vaisselle aussi, tu vois. C'est vraiment essayer de faire des itérations et passer à l'action le plus rapidement possible. Parce que tu peux rapidement. Ce qui est amusant, c'est qu'on a les deux extrêmes avec vous. C'est Élise qui rapidement passe à l'action, mais qui réfléchit pas forcément à une méthodologie avant, et Aurélie qui passe. Tout son temps à essayer de penser à une méthodologie, mais qui passe pas à l'action.
Ça, c'est amusant. Bah, sans compter les milliers de livres, de formations que j'achète,
ah oui,
que j'ouvre pas des fois, tu vois.
C'est ça que je juste pour me rassurer. Aurélie, c'est comme moi, dès qu'on parle méthode, moi, j'aime la bibliothèque Aurélie, tu vois. Parce qu'avec tout ce qu'elle a pu lire entre les cours, les bouquins et tout, moi, dès que j'ai besoin d'une. Tiens, je me dis, mais il doit bien avoir une méthode pour pouvoir faire, je sais pas, les réseaux sociaux ou tel truc. Moi, je cherche même plus sur Google. Moi, je vais remplacer Google par Aurélie.
Aurélie Google.
Aurélie Google. Tu vois, c'est moteur de recherche Lily. Et je tape pas dans Google, je tape dans WhatsApp, tu vois. Est-ce que tu connais?
Ah oh, ben oui, j'ai un tableur Excel pour ça, tiens. Copier, coller. Mais bon, voilà.
J'ai des questions de documents là-dessus.
Tu sais, Fred, que maintenant, je fais la même chose. Je fais exactement la même chose. Dès que j'ai une question de méthode ou j'ai besoin d'un outil, Aurélie.
Clairement. Mais moi, je vais plus loin. C'est que même pour les gens maintenant. Genre, tu vois, je pense faire un projet dans le futur. Mais maintenant, c'est une nouvelle stratégie. Alors, on parlait de méthode. Voilà ma nouvelle méthode. En fait. Je pense à un projet. Je me dis, même il me faudrait quelqu'un comme ça. Donc, j'en parle à Aurélie. En me disant que de toute façon, un, peut-être qu'elle a déjà quelqu'un comme ça. Deux, elle va rencontrer quelqu'un comme ça.
Oui, c'est vrai, des fois, j'ai des connexions un peu improbables. Oh, non, mais
j'ai tout testé avec elle.
Ça touche à peut-être un thème qu'on n'avait pas listé, je crois, mais c'est... sortir de sa grotte, c'est aussi parler à d'autres gens, ouais. C'est cultiver son réseau et... En fait, je suis atterrée de voir à quel point beaucoup de gens n'osent pas.
On l'a mis en cinquième. En cinquième.
Ah, c'était en cinquième.
Ouais, foncer ouais. Seul sans s'occuper des autres.
Bon, on peut en parler tout de suite, du coup.
Oui, alors. On va en parler maintenant. Ouais, hein. Ouais. Et c'est vrai que c'est toi, Fred, qui m'a permis de me rendre compte que. Enfin, moi, je croyais que c'était normal, en fait. Tu vois, moi, j'ai une question, je vais contacter des gens que je connais pas. Je fais, ah, j'ai vu, ça, c'est intéressant. Enfin, c'est hyper naturel. Et voilà, enfin, un coup, j'avais besoin pour une conférence, on avait besoin d'un traducteur finlandais français, tu vois. Et du coup, j'ai mis un mot sur Facebook, tu sais, on a trouvé en quelques heures, tu vois. Et en fait, pour moi, c'est des réflexes naturels, tu vois. Et en fait, non. Et ça peut vraiment bloquer les gens de pas de pas oser aller vers les autres, de pas oser s'entourer. C'est clair.
Donc... Aurélie, on va te le dire qu'une seule fois, ce n'est pas naturel. Ce n'est pas normal.
En tout cas, juste pour un peu donner le gros titre de ben, la partie 3 dans laquelle nous sommes entrés, c'est voilà, cette notion de foncer seul en disant que j'ai besoin de personne, ou alors ne pas oser aller chercher des gens qui peuvent avoir des capacités, qui peuvent nous aider. Et c'est clair qu'Aurélie a un don particulier pour pouvoir rencontrer des gens. Et comme disait Elise, ben, Elise c'est, non, enfin, c'est, tout le monde ne sait pas faire ça. Enfin, moi, je ne suis pas aussi doué que toi pour ce genre de choses, par exemple. Et moi, je suis épaté avec le, du naturel avec lequel tu arrives à faire ça, en fait. Il faudrait que tu nous expliques comment. Ce serait bien une petite formation, comment être sociable, tu vois.
ok, ouais, faudrait que vous me posiez des questions. Là, comme ça, je ne sais pas.
Ce sera peut-être le sujet d'un nouvel épisode.
Ah, ça peut être le sujet d'un
épisode. Ah ben, ok, je note.
Sujet d'épisode. Mais comment tu fais, par exemple, Aurélie, sur tes projets, pour bien t'entourer sur tes projets, en fait? Est-ce que c'est... tu listes des capacités que tu as besoin et tu cherches dans ton petit carnet rouge, enfin, tu... vouloir, je sais pas. c'est quoi ton process de... Parce que mine de rien, t'es bien entouré. Enfin, je trouve que t'as pas mal de... Alors, t'as pas mal de contacts, mais je sais pas à quel point ces contacts-là peuvent t'entourer ou pas de façon active. Et si oui, comment tu penses les choses à ces moments-là quand tu veux impliquer des gens dans tes projets?
Bah, moi, en fait, les choses se sont construites assez naturellement parce que moi, je me suis impliquée dans l'associatif. Donc déjà, j'étais constamment en train de faire des projets liés à l'association avec d'autres personnes. Et puis de là, après, émergent des envies de faire d'autres projets. Donc tu vois, on en parle autour d'une bière et puis hop, on passe à l'action. Alors, peut-être parfois trop vite à l'action, tu vois.
Parce que j'ai plein de...
Grave. J'ai beaucoup de projets comme ça qui sont partis à la poubelle par manque de méthode. Et après, quand j'ai décidé de devenir freelance, ben, moi, j'avais pris une formation chez Live Mentor. Et c'est vrai que la communauté Live Mentor a pu créer pas mal de liens entre des gens virtuellement à distance. Donc voilà, je pense à un moment donné, il faut rentrer dans un groupe quel qu'il soit. Et petit à petit, se nouent des liens et dans les conversations émergent les projets. Enfin, moi, c'est comme ça que je fais. Je préfère connaître les gens avant de lancer quoi que ce soit, quoi. Et après, il y a toujours l'option de regarder un peu sur LinkedIn des gens qui m'intéressent. Tu vois, à un moment donné, je m'intéressais à voir est-ce qu'il n'y aurait pas des grosses hackers pour mes clients dans les startups ou des gens qui font du community management sur LinkedIn. Parce que voilà, je me disais que ça pouvait être utile pour un de mes clients. Et voilà, tu repères les profils et tu envoies un message, tu demandes « Ouais, ça m'intéresse ce que tu fais ». Et souvent, en fait, c'est ce qui est assez surprenant, c'est que les gens, ils disent oui, tout simplement. Hein.
Donc, tu les contactes, tu leur proposes de prendre une bière ou de faire un call, quoi.
Voilà, faire un appel, 20 minutes. Et... Mais c'est clair que pour le faire, quand ce n'est pas naturel, ben, il y a quand même quelques peurs à dépasser, quoi.
Et tu as déjà eu de mauvaises expériences? Enfin, je pense avoir la réponse, mais c'est surtout pour que les auditeurs qui commencent à avoir peur, à dire « j'aimerais bien faire ça, mais j'ai peur de la réaction des gens ». Est-ce que tu as déjà eu de mauvaises expériences en contactant quelqu'un?
En termes de contact, ouais. Bah, oui, bien sûr. En fait, quand tu... À un moment donné, il y a des risques dans la vie. Donc, le truc, c'est que tant que tu n'as pas un nom, tant que les gens ne te disent pas non, bah tu continues à essayer de rentrer en contact avec les gens. Mais après, à un coup, j'ai eu une mauvaise expérience. Voilà, j'ai voulu contacter une dame qui était assez haut placée dans une sorte de, voilà, d'institut qui accompagne les chercheurs. Et en fait, c'est quelqu'un qui m'avait parlé de cette personne. Il m'a dit « c'est telle personne qui s'occupe du truc qui m'intéressait dans l'organisation ». Et j'ai cité la personne qui m'a parlé d'elle. Et en fait, je savais pas du tout qu'ils se détestaient. Du coup, je me suis... Alors, c'est bien parce qu'elle a répondu rapidement, mais j'ai une réponse sèche. Et voilà. Donc, voilà, après, faut encaisser les chocs, tu vois. Tu sais, quand on est petit, si vous avez appris à faire le vélo, bah, vous êtes quand même tombé deux, trois fois, les croûtes, mais après ça cicatrise.
Ouais,
donc,
au pire, ça fait une bonne histoire à raconter dans un podcast. Ouais.
et t'as pris combien à peu près de contacts de cette manière?
Je pense sur LinkedIn, je pense que j'ai dû contacter en une année. Tu sais, je suis pas une folle. Enfin, je fais pas beaucoup, hein, mais une trentaine de personnes quand même.
D'accord. Et t'as eu une seule expérience?
Faudrait que je compte.
Sur 30, une seule expérience
Une seule mauvaise expérience. Après, j'ai une autre personne qui m'a dit non. C'est quelqu'un que j'avais rencontré dans un hackathon il y a 4 ans. Et c'est quelqu'un qui m'avait laissé sa carte et tout ça. Et en fait, je l'ai contacté à un moment où bah, il était hyper occupé, tu vois. Et tu vois, j'ai envoyé des relances. Je lui ai même proposé, ouais, je serais prête à vous offrir un déjeuner, quoi, à Paris. C'est un truc qui peut se faire, hein. Mmh. Et en fait, bah, et après, il était très poli et gentil. Il m'a dit non, j'accepte pas d'engagement. Et en fait, j'ai compris pourquoi. Parce que peu de temps après, il a été nommé, bah, pareil, dans un type d'institut qui m'intéresse beaucoup, d'entrer en contact. Et il a été nommé dans un poste haut placé. Donc, la personne est hyper demandée, tu vois.
Ouais, yes. Ouais, ouais, c'était pas le bon tu moment pour ça, en fait.
Là, il avait et en fait, je suis convaincue qu'il y aura sûrement un bon moment ultérieurement. Donc, faut comprendre que les gens, ils ont leur vie. Et t'inquiète, ils sont assez grands pour te dire que non, tu vois. Mais sinon, à part ça, les probabilités qu'on te dise non sont quand même assez faibles. Mmh. Et en fait, je crois qu'il y a déjà très peu de gens qui osent faire du contact direct comme ça. Et souvent, les gens s'arrêtent parce qu'il n'y a pas de réponse. Mmh. Et en fait, il y a très peu de gens qui osent faire des relances. Et souvent, bah, au bout de la deuxième ou troisième relance, on a une réponse. C'est juste les gens, ils sont occupés, ils ont des trucs à faire, c'est tout.
C'est intéressant. Donc, il y a quand même une frontière entre j'envoie un mail et je spam. on peut jouer avec le curseur, quoi. On peut faire des relances sans être vu comme étant un spammeur.
Ça me semble. C'est ça. Il y a plein de types de relances indirectes. Il y a plein de manières subtiles de le faire. Voilà.
Un autre épisode.
Ce qui est lourd,
encore,
c'est quand tu viens. Ouais. Voilà, ça sera un autre épisode. Bah, c'est là, on est en train de faire la liste des épisodes. En fait. Donc voilà, on en reparlera.
Non, mais c'est enfin, juste pour accompagner ce que tu disais, je suis dans l'incubateur où je suis. Il y a la personne qui gère l'incubateur disait ça tout le temps pour dire il ne faut pas avoir peur de relancer les gens, en fait. C'est même ton taf de relancer les gens. Si tu ne le fais pas, qui va le faire, en fait. Et moi, j'aime bien dire que si c'est mon job de relancer, c'est au job de la personne de refuser. Mais très souvent, on veut prendre le job de la personne. On ne le contacte pas parce qu'il va refuser. Non, mais chacun son taf, toi, demande, et c'est lui qui peut refuser. Mais commence pas à faire la question et la réponse, en fait.
C'est ça.
J'avoue que je suis plutôt pas une fan de la relance. J'ai envoyé mes 60 mails de prospection, mais j'ai toujours pas relancé.
On en reparlera.
Tu vois, dans ton cas, Élise, ouais, ça vaudrait le coup peut-être en envoyer un peu moins, mais d'être plus qualitatif dans les relances. On en parle.
Ah,
on s'appelle.
On s'appelle. Il y aura un vrai épisode sur la gestion des contacts et des relances.
Ah oui.
Contacts et relances.
Mais je pense que la question de faire les questions et les réponses soi-même, ça peut nous bloquer dans plein d'aspects, ouais. En fait, quand on essaie de lancer un projet. Et c'est pareil, en fait, quand on se dit, ouais, j'ai envie de faire un produit. Tu vois, ça peut être écrire un bouquin ou faire une formation ou faire une appli. Et on se met des barrières tout seul. À faire des hypothèses dans le vide, alors qu'à un moment donné, il faut aller rencontrer tes potentiels utilisateurs pour leur poser des vraies questions. Sinon, en fait, tu fais du surplace et tu fermes des portes tout seul.
Ouais, clairement.
Je crois que Fred, tu as une phrase pour ça. Les hypothèses.
Faire des hypothèses. Moi, j'ai horreur de ça. Enfin, c'est. Non. Non, non. J'ai horreur de ça parce que j'en ai fait énormément encore. C'est que vous me connaissez maintenant, une période de ma vie où j'ai déjà passé certaines bêtises du genre, mais faire des hypothèses sur des hypothèses sur des hypothèses, j'étais très fort à ça, tu vois. Et au bout d'un moment, tu te perds dans toutes ces réflexions-là et tu n'as pas fait d'action et tu ne fais rien, en fait. Et très souvent, il suffit qu'une hypothèse au milieu ne soit pas bonne. Tout ce que tu as construit par-dessus est pourri. Alors que essayer de le faire étape par étape. J'ai une hypothèse, je la vérifie et à partir de là, je vois ce que je fais derrière. Itératif, je vais me tatouer, itératif, man.
On fera des mugs.
C'est ça, on fera des mugs. Mugs itératifs. Café, boulot. Pour moi, c'est la meilleure façon de faire parce qu'au moins, tu te bases sur des éléments, en fait. et vérifier une hypothèse, ça que j'aime, ouais, ça que j'aime, c'est que vérifier une hypothèse en réalité, ça te permet de, même si elle est, t'as fait une hypothèse, elle est pas bonne, mais t'as quand même une information en fait. Et ça fait une belle transition vers le prochain point, qui la meilleure façon de pouvoir bien foirer son projet, c'est d'être trop rigide sur la façon dont tu as pensé ton projet depuis le premier jour. Genre, j'ai pensé que mon projet, ça doit être ça. J'ai fait des plans sur 10 ans parce que justement, on m'a demandé un business plan. Et quand tu arrives, salut Elise, hein? Et quand tu arrives, par exemple, à tester ta première hypothèse, ou bien même parfois, ce n'est pas par ta propre volonté que tu as voulu tester, mais tu te retrouves confronté à un client qui te dit non, ça ne m'intéresse pas. Par contre, parmi les 10 points que tu as parlé, si tu rentrais plus profondément dans le quatrième, là, je serais prêt à mettre un billet. Et là, tu fais non, mais non, frère, c'est lui qui paye. Hein. Enfin, c'est lui qui potentiellement va ramener de l'argent pour t'aider à créer les autres points que tu veux créer. Mais il ne faut pas être aussi rigide. Alors, je ne dis pas d'être monsieur, oui. Ça, c'est un autre extrême. Mais être trop rigide, j'ai mon idée et ne pas essayer de surfer sur les circonstances qui arrivent, c'est un gros piège, en fait. Et ce n'est pas évident. Ça, j'en ai conscience. Mais je trouve qu'en tant qu'entrepreneur, une des clés, c'est de savoir surfer sur les événements, positifs comme négatifs. J'avais cette idée-là, j'avais cette hypothèse-là, ça n'a pas donné ce que je pensais. Ben, surf sur la conclusion que tu as pour pouvoir trouver autre chose. Alors, on parle de pivot parfois, mais ce n'est même pas un vrai pivot, hein, c'est un semi-pivot, quoi. Mais c'est juste prendre le risque de dire « Ah tiens, ça ne se passe pas comme prévu, c'est cool. » Parce qu'au moins, ça se passe.
En fait, mieux vaut avoir un échec, tomber tout de suite. Ouais. Comme ça, on se relève tout de suite, on apprend. Et finalement, on réduit l'incertitude, quoi. On parle beaucoup de ça entre nous. Mais en fait, ça coûte cher, en fait, de pas savoir, de pas avoir les informations, parce qu'on peut faire des mauvais choix. Donc, quand on a, on finit une itération et on se rend compte, test pas très concluant, au moins, on sait qu'il faut pas aller dans telle direction. Et ça, c'est une information précieuse.
Elle est super précieuse. Super précieuse. Je préfère même savoir quelles sont les portes qui sont fermées que les portes ouvertes, en fait. Parce que parfois, tu as des portes ouvertes qui sont potentiellement bonnes, mais qui ne sont pas les bonnes portes pour toi. C'est les pires pour moi, celles-là, tu vois. Alors qu'une porte fermée est bien fermée, verrouillée, pour aller sur Pluton, ça ne sera pas possible à première vue, tu vois. Mais c'est pas, ça veut dire que ça, je peux le rayer. Alors qu'une porte ouverte, ce n'est pas parce qu'elle est ouverte qu'il faut y aller, tu vois. Trop souvent, on voit un échec ou bien un truc qui ne s'est pas passé comme prévu, comme étant, comme prévu, je suis nul, t'as vu, hein, je savais que ça n'aurait pas marché.
Et on rentre même dans la porte ouverte, sachant qu'elle n'est pas forcément bonne pour nous, justement pour ne pas dire qu'on a échoué. Parce que on est trop dans la peur de l'échec. Ça. Donc, on va rentrer dans cette porte, on va dire, c'est une bonne porte pour moi, et en fait, on sait très bien qu'elle n'est pas du tout bonne.
C'est comme ça que tu fais des burn-out dans des portes ouvertes.
C'est ça.
Ah ouais, c'est clair. Et je crois que ça s'appelle le biais d'opportunité. En fait, parfois, on a tellement dépensé du temps, de l'argent, de l'énergie dans quelque chose qu'on ne veut pas se remettre en question et on préfère continuer dans la mauvaise direction que d'accepter de faire demi-tour, quoi.
C'est ça. Ouais. Et il faut savoir qu'on ne fait pas demi-tour. On avance, on change juste de voix, en fait. Parce que tout ce qu'on a appris juste avant, comme vous disiez, ça invalide les hypothèses qu'on a faites. Donc finalement, on ne retourne pas en arrière. On avance sur un autre chemin.
C'est intéressant ce que tu dis.
Ouais, c'est en fait, on sort de la pièce, on ferme la porte, on la cadenasse, on met un post-it genre « Bon, c'était cool, mais du coup, voilà pourquoi on n'ouvrira plus cette porte-là. » Et on retourne dans le couloir et on ouvre une autre porte.
C'est ça. Mais il faut savoir...
Pour reprendre ta métaphore, hein, Fred.
Mais il faut savoir que le post-it « C'était cool », il peut nous resservir sur autre chose. En fait, toutes les expériences qu'on a faites jusqu'à maintenant, à un moment donné, on va savoir pourquoi on les a faites.
C'est intéressant. En gros, on revient à cette notion de pouvoir capitaliser sur nos expériences passées qui ait fonctionné ou pas, hein, c'est pas le problème. C'est qu'une expérience te permet d'avoir, de développer des capacités. Donc, tu te retrouves avec un sac à dos de capacités. Et pour la prochaine expérience, tu peux utiliser ben, tous ces éléments-là, en fait, qui sont dans ton sac à dos. À toi de choisir ce que tu veux utiliser.
Ben, c'est ça.
Et c'est intéressant parce que, en pensant comme ça, c'est vrai que tu n'es plus dans cette notion de je retourne en arrière ou bien je repars de zéro, qui est très négatif quand même comme image, cette notion de ah ben c'est raté, allez, on part de zéro. Alors qu'en définitif, tout ce que tu as appris là, c'est des choses qui vont te servir de pilier pour ben, la prochaine expérience que tu vas mettre en place. Et là,
j'ai un très bon exemple en plus.
Ouais, vas-y, Élise.
Ah ben, je vais raconter ma vie, hein, parce qu'on est, on est là pour ça. Hein. Moi, j'ai commencé l'aventure entrepreneuriale en tant que photographe. Pack shot. Donc en fait, les pack shots, c'est des photos produits. J'ai vendu des photos de produits pour des entrepreneuses. Et rapidement, je me suis rendu compte que c'était pas quelque chose qui me plaisait, que j'avais envie de faire de l'accompagnement. Donc je suis d'abord partie dans l'accompagnement de tout ce qui était image de marque avec la photographie. Créer des stratégies de marque, etc. Et ça n'a pas du tout fonctionné. J'ai pris une grosse baffe dans la tête, excusez-moi pour l'expression. Et là, je me suis rendu compte que, ok, le marketing de marque, enfin l'image de marque, etc., c'était pas quelque chose qui me plaisait, mais le coaching, c'était quelque chose qui était pas mal. Donc, j'ai commencé une formation de transition professionnelle et je suis arrivée à l'orientation professionnelle et à la transition de carrière. Quelque chose que j'avais fait quand j'étais chargée des ressources humaines, donc un an plus tôt. Et là, je me suis dit, ouais, mais en gros, la période où j'ai fait photographie et marketing digital, c'était un gros fail. Je vais jamais l'utiliser. Je vais recommencer la photographie juste pour mon kiff et je laisse cette expérience de côté parce que c'est un gros échec. J'ai même parfois honte d'en parler. Et progressivement, j'ai rencontré des gens, notamment Fred qui s'est mis sur ma route à un moment donné et qui m'a dit mais pourquoi tu reprends pas la photographie et que pourquoi tu l'inclurais pas dans tes accompagnements? Donc, j'avais pas envie de reprendre la porte de l'échec. Donc, je lui ai dit clairement que c'était quelque chose que je voulais pas du tout faire. Et l'idée a mûri. Bon, y a plein d'autres personnes qui me posaient la question. Donc, après, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à chercher là-bas. Et finalement, j'ai décidé de le réinclure dans mes accompagnements. En me disant que chaque partie du puzzle de mon parcours a une cohérence en fait par rapport à qui je suis et par rapport à ce que je fais. Et ok, je suis coach, consultante, etc. dans tout ce qui est qualité de vie au travail et tout ce qui est orientation professionnelle, mais il reste une partie artistique, une partie créative, une partie je ne sais pas comment la qualifier véritablement, que je pourrais inclure dans cette partie, dans cette partie de coaching et dans cette partie d'orientation professionnelle. Et même si ça a été un échec, finalement, comme tu dis, Fred, c'est une partie du sac à dos qui nous accompagne vers autre chose, en fait, finalement. Et ce fail, ça m'a permis de voir ça, finalement.
Mais de toute façon, là, tu as dit un mot qui m'a frappé. En fait, c'est puzzle, en fait. C'est-à-dire que ce qu'on avait vu dans le livre Montre ton travail, enfin, qui m'a beaucoup inspirée pour lancer ce projet Sors de ta grotte, c'est que, en fait, on se focalise trop sur un produit fini, une œuvre finie qu'on voudrait montrer au monde, alors qu'en fait, les gens n'ont pas compris que l'œuvre, c'est toi, c'est ton parcours, c'est tes expériences de vie, c'est tes fails. C'est tout ça, en fait, qu'il faut mettre en valeur. Et c'est vrai que j'ai constaté que parfois, les gens n'osent pas se lancer dans un projet. Alors, ça peut être un side project, un projet qu'on fait à côté d'une activité principale. Ou... En fait, n'osent pas se lancer dans n'importe quoi. Ou ne serait-ce que même aussi, tu vois, si c'est des indépendants qui veulent communiquer pour se faire connaître, mais ils n'osent pas le faire parce qu'il y a déjà trop de gens. Mais à un moment donné, il faut comprendre que chaque personne est vraiment différente et unique. Et la richesse, c'est pas dans spécialement ce que tu fais à un instant T, c'est vraiment cet agrégat, c'était l'agrégat de choses que tu as fait dans ta vie qui vaut de l'or, en fait, si tu es capable de l'exploiter.
Clairement. C'est vraiment... Ça fait réfléchir. Même moi, ça me fait réfléchir. Tu vois. J'espère que ça fait réfléchir les auditeurs aussi, pour le dire. Le vrai projet, c'est soi-même, en fait.
C'est
soi-même.
Bon. Ah, c'est là, on arrive au niveau philosophique de la discussion, en fait.
On n'est pas prêt pour ça. On va passer au prochain point, parce que là, ça devient... Non, mais c'est fort.
Ça nous arrive souvent, quand même, hein, ce petit dérapage philosophique.
Ouais, faut qu'on fasse attention. Hein, ça commence à...
Bon, en tout cas, si dans les commentaires, vous avez envie de partager un peu quel projet vous voudriez lancer ou qu'est-ce que vous voudriez mettre en valeur, ou si vous pensez que vous avez de l'or dans les mains mais que vous ne savez pas comment le valoriser, le transformer, ben, racontez-nous ça dans les commentaires. Voilà.
Yes. Oh là là. Yes.
Si ça vous plaît aussi l'aspect philosophique pour qu'on puisse continuer...
Voilà, qu'on garde la rubrique hashtag dérapage philosophique.
Je vais faire un jingle. Dérapage. Allez, on arrive au dernier point. Ce dernier point, si on veut bien rater son projet, c'est ne pas penser au financement du projet. Dès le début.
Hashtag association 1901.
Hashtag association 1901.
Alors, qu'on soit clair, on n'a rien contre les associations 1901. Mais même là, moi j'ai de l'expérience dans l'associatif, même là, il faut avoir la tête sur les épaules. Moi j'ai fait de la levée de fonds, du mécénat philanthropique, tout ça. Et en fait, c'est la même chose. Quand on commence à mettre en place une vraie stratégie de levée de fonds, eh ben, on fait une espèce de business plan, on réfléchit, on a une réflexion marketing de vraiment qu'est-ce qu'on peut apporter, c'est quoi notre proposition de valeur et tout ça. Et on ne peut pas arriver au bout des projets à un moment donné, hein, parce qu'on parlait d'épuisement tout à l'heure, de sprinter, de ne pas sprinter pendant un marathon. Et à un moment donné, il faut être réaliste. Est-ce que mon projet, il me rapporte de l'argent ou est-ce que je dois trouver de l'argent pour le financer?
Ouais. Et je vais même plus loin, c'est que même s'il ne rapporte pas de l'argent, au pire, il faudrait qu'il ne te coûte pas de l'argent, en fait. Parce qu'on oublie souvent que le principe d'une association, c'est qu'elle n'a pas le droit de faire de bénéfices. Donc, si tu as 100 000 euros qui rentrent, il faut dépenser les 100 000 euros. Et à cause de ça, on pense à chaque fois qu'une association, ben, comme elle ne doit pas faire de bénéfices, ça veut dire qu'elle ne doit pas faire d'argent. Mais non, alors tu peux avoir des associations qui font vraiment du 100 000 euros qui rentrent et qui trouvent le moyen de le dépenser, en fait. C'est le principe même. Mais il faut t'asseoir pour savoir comment les 100 000 euros tu le fais rentrer. Ou bien si c'est purement une association, moi je parlais de ça avec une amie, Greta, si tu nous entends. Tu disais, t'as un projet, c'est cool, mais même si c'est une association, pose-toi la question de combien va me coûter le projet par an. Si tu sais ça, tu peux ensuite te dire, mais comment je peux trouver cet argent-là, juste, pas pour avoir de l'argent, hein, juste pour faire en sorte que le projet puisse durer sur le temps. Parce que combien de projets, même d'associations, commencent la première année? Ils sont tout feu, tout flamme. Et après, ils se rendent compte que ça coûte. Et 2-3 ans après, ben, le truc n'est plus là parce que justement, ben, c'était compliqué au niveau finance. Tu vois. Moi, je me dis, tu es obligé, même pour une association, quelque chose de social, tu es obligé de penser un peu. Il faut mettre l'argent sur la table parce que c'est les factures et les choses comme ça, ben, tu es obligé de le payer avec de l'argent. Et la question de savoir ensuite combien tu en as besoin, pour moi, c'est la première étape. Et quand tu sais combien tu as besoin, là, on peut s'asseoir pour savoir comment on va la récupérer. Alors, parfois, c'est juste aller chercher de l'argent en faisant des subventions. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais parfois, ça peut être de vendre des t-shirts, de vendre des gâteaux. Mais si tu ne sais pas déjà combien tu as besoin au minimum, ça va être compliqué de pouvoir gérer le projet après.
Et je vois aussi trop de personnes... alors, il faut savoir qu'en France, vous habitez en France, en tout cas, vous.
Oui. Nous, on est des Français en France, nous.
Voilà, moi, c'est France de l'étranger. On a la chance d'avoir le chômage qui dure quand même assez longtemps, qui reste quand même un montant conséquent, et ce n'est vraiment pas le cas dans d'autres pays. Et ça permet vraiment de se lancer facilement. Le problème, ce que je vois beaucoup, c'est que les gens mettent des mois à se bouger, en fait, à se booster, à passer à l'action. On cherche des excuses, oh, bah, il me reste encore 18 mois de chômage, tout ça. Sauf que, en fait, que bah, là, je trouve qu'ils n'ont pas compris, c'est que la seule chose qu'on ne récupère pas, c'est le temps. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a cramé le chômage? Est-ce que je dois reprendre un boulot? Est-ce que tout ça? Donc, voilà, il faut savoir se poser les bonnes questions. Et si jamais j'ai un problème avec l'argent, gagner de l'argent dans mon projet, bah, peut-être se poser la question pourquoi? C'est quoi la croyance limitante derrière? C'est quoi ma peur? Est-ce que j'ai pas un problème de... Pourquoi j'ose pas mettre un certain prix? Pourquoi je me paye bien en dessous de ce que je devrais?
On parlait aussi, Aurélie, juste avant le podcast, de cette histoire des personnes qui testaient gratuitement leur... alors, c'est souvent des personnes qui font du service, typiquement coach, et qui testent leur accompagnement pendant des mois avant de se dire qu'ils vont vendre...
Pendant des mois, sur 10 personnes.
Voilà.
Allez, encore 10 personnes pour être sûre.
Donc, oui, on parle un petit peu... Enfin, en tout cas, moi, personnellement, je parle un peu d'expérience. Je pense que pour ne pas foirer un projet, en tout cas de service, de proposition de service, le test doit s'arrêter à un moment donné. Et OK, il faut tester son idée, tout le monde le dit, mais le test de l'idée doit se faire... sur un temps restreint et pas sur enfin typiquement moi ça a duré quand même 1 an et demi le test et et le truc il a foiré complètement parce que j'avais mis trop de temps à tester, il a jamais été vendu en fait finalement.
Et qu'est-ce qui aurait fait que, bon, admettons on t'aurait mis une deadline, enfin une date limite genre à 3 mois. Et comment t'aurais su que t'allais continuer ou pas à tester? On passe en mode coaching. Hein.
Je pense qu'on revient sur, on revient sur, sur la méthode. L'itération, faire les hypothèses, analyser les hypothèses qu'on a, enfin les résultats des hypothèses qu'on a faites, et après recadrer les actions que l'on effectue. Mais je pense qu'au bout d'un moment, le test, tu le fais aussi dans la pratique. Tu fais pas que... Par exemple, tu vas pouvoir tester sur 10 personnes. La 11e personne à qui tu vas vendre, ça peut foirer ton projet. Parce que de toute manière, en tout cas, en termes de coaching...
Ouais, c'est clair. C'est pas une science...
pas une science exacte.
C'est clair.
Et la personne qui est en face de toi, elle sera différente de la 9e, de la 8e, de la 7e. Donc, je pense que le test, et tu évolues en travaillant. En tout cas, coach... consultant, etc. C'est en faisant que tu fais. Donc, autant faire dès le départ.
C'est clair.
Enfin, c'est mon avis, après.
Là, ça me faisait penser à quelque chose. Dans mon expérience, parce que moi, j'ai vraiment eu un... Ça a été un sacré défi de devenir freelance. Puisque, bon, voilà, on va pas raconter ma vie, mais en tout cas, il y a eu un moment de transition professionnelle. Et je savais que je pouvais plus continuer le type de travail que je faisais. Le truc, c'est que ma santé ne me permettait pas de reprendre des études parce que j'étais très focus diplôme. Maintenant que j'y repense 5 ans après, je me dis, purée, j'étais un peu bornée, tu vois. Franchement, maintenant, ça me paraît facile, mais n'empêche que j'avais hyper... Moi, je voulais devenir community manager parce que je me disais, finalement, ces dernières années, j'ai touché pas mal les réseaux sociaux, j'ai organisé pas mal de groupes Facebook. À un moment donné, j'avais fait genre des cours de psycho à distance. Et j'avais organisé un groupe Facebook, même fait un blog. Et en fait, je ne m'étais pas rendu compte que j'avais créé une espèce d'espace de formation digitale, en fait. et de club étudiant à distance, tu vois. Et avec le recul, bah, ça, c'était déjà du community management. Donc, du coup, j'avais envie de me lancer là-dedans. Le truc, c'est que je fais comment? Alors, à l'époque, il n'y avait pas spécialement de formation non plus. Enfin, il y en avait. J'aurais pu reprendre ça, mais enfin, je sais pas, je me sentais pas légitime. Est-ce qu'il faut que je fasse des études de communication? Mais faire des études pendant 12 mois, c'était pas possible. Ma santé le permettait pas. Bon, alors comment je vais faire sans légitimité due au diplôme? Ben, quelque part, c'est vrai qu'il a fallu que je puisse me tester sur des projets. Donc déjà, je sais que j'ai un peu conseillé des gens gratuitement au début. Après, il y a même eu, alors pas que pour le community management, mais d'autres choses. Après, on m'a proposé de collaborer sur un projet et du coup, c'était un peu genre défrayé, une semaine dans une maison super sympa et puis un petit chèque à la fin, tu vois. Et puis petit à petit, en fait, c'est monté en cadence où, bah, jusqu'au jour où j'ai vraiment facturé les vrais prix, quoi. Donc, c'est pour rejoindre l'idée d'Élise de, bah, aussi, on apprend en faisant. Et en fait, très vite, moi, je trouve que très vite, il faut quand même monétiser rapidement le service qu'on teste, quoi. Si au début, tu ne te sens pas assez à l'aise, bah, dans ce cas, tu fais un prix symbolique. Mais après, il faut faire attention parce que si tu es trop bas, ben, ok, tu vas attirer des gens qui sont prêts à payer des prix bas, mais le vrai client que tu voudrais avoir derrière, ben, c'est peut-être pas du tout le même profil.
Et très souvent, les gars qui viennent pour les prix bas, c'est les plus clients, en fait. C'est ça qui est assez fun. Mais clairement, enfin, moi, je vois loin dans cette notion de deadline, d'une part. Pour moi, un truc qui n'a pas de deadline, ça ne marchera pas. Et je me suis rendu compte, juste pour compléter, avant de finir, c'est que je me suis rendu compte que les gens, si tu n'ont pas le même comportement lorsqu'ils payent un produit, même en test, hein, et quand le produit est gratuit. Bizarrement, quand il est gratuit, ben, ils ne le prennent pas au sérieux, en fait. Et rien que pour ça, je pars du principe que comme, penser faire payer, même si c'est quelque chose, pas un grand montant, mais un montant suffisant pour que la personne puisse se dire hey, « j'ai quand même donné de l'argent », parce que dans un premier temps, quand c'est gratuit, il pense que qu'il te donne un coup de main. Dès qu'il paye, il devient client dans sa tête. Et ce n'est pas du tout les mêmes réflexes qu'il a. Donc, penser à euros. Dès le début, ça peut quand même changer la facette du projet.
Et je pense juste, c'est important de faire un peu son plan de vie. En fait, savoir un peu... qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qui est important pour nous, c'est quoi un peu les postes de dépenses, c'est quoi ce qu'on a envie de réaliser dans notre vie, parce que ben, j'avais un cas comme ça de créateurs, ben, ils avaient de l'argent de côté, donc ils faisaient pas mal de... Ils investissaient beaucoup, ils achetaient des machines, des fois des machines à 40 000 euros, des trucs comme ça. Et à un moment donné, enfin, tu passes des années comme ça à développer ton truc, l'argent rentre pas. Et ouais, t'es en train de dilapider l'argent de ta retraite. Alors après, c'est chacun ses choix. Mais et donc, à pas se payer, parce que je veux dire... Et en fait, à partir du moment où ils ont fait le travail de faire un plan de vie et se dire « Non, mais quand même, j'ai envie d'avoir tel budget par mois et tout ça bah, », ça a un peu remis les idées en place sur certaines choses. Et ça les a obligés un peu à regarder la réalité en face de certains aspects de leur business, comme le marketing, les choses comme ça. Donc c'est vraiment, on rigole pas sur l'aspect financement du projet, c'est vraiment important d'être réaliste là-dessus.
Yes, et nous arrivons à la fin de ce premier épisode. Donc si je dois faire un récapitulatif, les 5 points pour bien rater son projet, c'est de sprinter, penser sprint dans un marathon, foncer en plus sans méthode, seul. Sans prendre en compte le fait qu'on aura peut-être besoin d'aide et que le réseau peut être important. En mode super rigide, j'ai mon plan sur 10 ans et ça va se passer comme ça et je ne vais pas changer d'avis. Les personnes bornées se reconnaîtront, hein, Élise. Et surtout, ne pas penser du tout à l'aspect financier du projet. En faisant ça, nous pouvons vous assurer avec certitude que vous allez bien rater votre projet. Certifié Aurélie, Fred et Élise. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, les filles ? Qu'est-ce que vous avez retenu de ce premier épisode ? Alors déjà, comment vous vous sentez à la fin de ce premier épisode ? Parce que les gens nous écoutent, mais moi je vous vois. Au début, c'était le stress total. Hein. Je vous dénonce devant tout le monde. Comment vous vous sentez maintenant?
Hyper énergisé. En fait, j'ai trop hâte que les gens nous fassent des retours, posent des questions, parce que en fait, ça va, on se débrouille. On arrive toujours à rebondir sur un sujet. On a toujours des choses à dire, donc cool.
D'ailleurs, on se limite. En termes de choses à dire,
Signes temps mort.
Voilà, je tiens à le signaler. Non, mais c'est vraiment une super belle expérience.
Nice. et aux auditeurs qui nous écoutent, je pense que le... ce qui sera intéressant, c'est qu'eux aussi peuvent nous rajouter un peu leur bonne méthode pour atteindre un projet. Parce que je suis sûr que, bon, on a parlé de 5 points qui nous parlent personnellement, mais je suis sûr que les auditeurs qui nous écoutent ont plein de petites anecdotes. Donc surtout, n'hésitez pas à nous partager vos anecdotes, vos fails. On appelle des fails, mais je pense plutôt que c'est plutôt vos expériences qui vous ont rendu plus fort et qui remplissent votre sac à dos de compétences. Sur ce, je pense qu'on peut dire au revoir aux gens. Et rendez-vous au prochain
ciao.
Épisode.
Bah oui. Parce qu'on va pas
portez-vous bien. Il fait tomber un truc.
Je pense que c'est une bonne conclusion. Allez, merci à tous et à bientôt. Au revoir.
Ciao.